Mémoire d'un continent, Elikem Boukolo.
Comment enseigner l'histoire de l'Afrique aux enfants? L'histoire de l'Afrique est aujourd'hui un objet qui n'est plus en débat, plus personne ne discute. Comme c'était le cas il y a encore 60 ou 80 ans, la question de savoir est-ce que l'Afrique a une histoire ou n'a pas d'histoire, quelle est cette histoire, quels sont les rapports entre l'histoire du continent africain avec les autres parties du monde. Aujourd'hui, c'est reconnu, l'Afrique, en effet, a une histoire riche, complexe, une histoire ouverte. Mais ce qui est important pour nous, c'est que le processus de production de cette connaissance du passé a été quand même et reste assez étroitement lié au développement historique du continent. Et notamment, c'est au moment des indépendances, au début des années 1960, que les deux processus que le continent africain a connus, le processus d'indépendance et le processus d'intégration continentale, a provoqué en quelque sorte la première grande génération des historiens professionnels africains. Il s'appelait Chekanta Diop, Martha Armbo, Bethuel Ogot et Adouboen, plein de gens sur tout le continent ont conçu donc le projet non pas seulement d'une histoire régionale ou d'une histoire nationale de chaque État africain, mais l'histoire de l'ensemble du continent africain. Cette démarche a abouti grâce au soutien de l'UNESCO, c'est-à-dire pour l'essentiel à la décision de Martha Rumbo, historien sénégalais bien connu de tous nos auditeurs. Ça a conduit à l'élaboration d'une histoire générale du continent africain. 8 volumes, chacun des volumes faisant à peu près 1000 pages, donc ça fait un gros livre de 8000 pages. Et c'est évident que ce manuel que les professeurs connaissent bien devait être mis en forme pour devenir un outil pédagogique. Une réunion vient de se tenir à Khartoum, au Soudan, une réunion dans laquelle des experts, historiens, mais aussi pédagogues se sont retrouvés pour voir comment mettre en forme justement ce gros livre en état de manuel. Nous recevons au micro de Mémoire d'un continent, Amadou Fall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et pédagogue, vous avez donc les deux casquettes. Vous enseignez dans la célèbre université Chekanta Diop de Dakar, dans l'ancienne école normale supérieure qui est devenue aujourd'hui une faculté des sciences.
Technologie de l'éducation et de la formation, FASTEF.
Donc vous êtes l'un des deux experts, d'ailleurs tous les deux venus de la même école. Vous avez été chargé donc d'opérer le passage de ces gros livres à des manuels. Alors, beaucoup de gens pensent que l'histoire, ce sont des dates. Donc on dit, par exemple, 1885, la conférence de Berlin, ou encore 1960, les indépendances africaines. Or, pour les historiens, l'histoire n'est pas, ce n'est pas d'abord les dates.
C'est ce qui donne du sens à ces dates. Ce qui donne du sens, c'est un peu tous les événements autour, avec les acteurs qui ont peut-être marquer ces dates, et c'est particulièrement important quand il s'agit de les enseigner, surtout de l'enseignement de cette discipline assez complexe, disons-le tout de suite.
Alors, dans le cas d'espèces que nous avons ici, l'une des difficultés, l'un des enjeux, c'est qu'il s'agit d'enseigner l'histoire d'un continent qui aujourd'hui compte 54 États, chacun avec ses problèmes, ses traditions pédagogiques et autres, mais il s'agit d'enseigner dans une vision globale et dans une vision d'intégration. Donc c'est un peu ça l'enjeu de la démarche que vous menez ici.
Par là, un problème extrêmement complexe. Notamment comment véritablement ne pas être enfermé dans ce carcan de nos aspirations nationales tout simplement, mais de nous inscrire dans une perspective d'intégration. Et c'est peut-être tout l'enjeu. Il ne faudra jamais perdre de vue que cette histoire devrait être vulgarisée et surtout donner au niveau des écoles une problématique qui serait que ça devrait être envisagé pour l'usage de cette histoire à des fins d'intégration. Ceci dit, c'est pas simplement de le dire, qu'il faudrait le traduire dans les faits. C'est-à-dire, il nous faut un curriculum pour ça, adapté pour ça. Quand on dit curriculum, on pense déjà à des contenus, à un programme. Lequel ? Avec toute la complicité que ça va impliquer en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, de la nécessité d'avoir une vision globale par rapport à l'intégration. Mais ce n'est pas que seulement un programme, c'est aussi un guide, parce que au fond, quand on élabore de tels outils, il faut toujours avoir peut-être à l'esprit les deux acteurs principaux. Ce ne sont pas les seuls, mais quand même malgré tout, c'est les acteurs principaux, c'est les enseignants. C'est les élèves. Et ces outils devraient être élaborés en fonction de ces deux acteurs, tout au moins dans cette phase. Parce qu'un curriculum est très englobant et dépasse bien sûr ça. Mais ce qui nous intéresse par rapport à l'élaboration de ces outils, ce sont d'abord les enseignants. Un, quel outil pour eux ? Nous pensons que fondamentalement, ils devraient avoir à sa disposition les contenus, c'est-à-dire le programme. On peut l'appeler livré comme on veut, on peut l'appeler un référentiel, on peut l'appeler comme on veut, mais au fond, l'appellation que nous avons adoptée ici, ce sont les contenus. Mais ces contenus, c'est, entendons-le, précisons-le tout de suite, c'est le programme. Mais ce programme doit être aussi traduit dans la pratique de classe. À partir de ce moment, il faut le guider, cet enseignement, d'où le guide pédagogique qu'on va mettre à sa disposition. Mais ce n'est pas seulement l'enseignant l'acteur. De plus en plus, je pense que c'est réglé depuis très longtemps que l'acteur principal, ce sur lequel il faut tout centrer, c'est l'apprenant ou l'apprenante. Et par rapport à celui-là, il faut penser à des manuels. Voilà les outils qu'on avait à élaborer. Nous sommes dans ce processus, c'est assez avancé, il y a d'autres supports qui viendront, mais on va tout de suite dire que notre propos va s'articuler autour de ça. D'où la question qui pourrait être posée tout de suite, mais comment vous avez procédé pour l'élaboration d'outils aussi complexes qui n'engagent pas seulement un pays, mais qui engagent un continent. Par rapport à ça, nous nous sommes donné une certaine approche, une certaine entrée, d'une part, mais également, nous avons essayé de respecter un certain nombre de principes sur lesquels on pourrait revenir. Je dois préciser que nous avons aussi voulu nous inscrire dans l'avenir, en peut-être privilégiant, entre guillemets, l'entrée par les compétences qui aujourd'hui est plus ou moins acceptée dans beaucoup de pays, qui a l'avantage de donner du sens aux apprentissages.
Alors, on va venir à cette entrée par les compétences. Vous parliez des apprenants, d'ailleurs c'est un mot intéressant, apprenants plutôt que les élèves, qui ont été découpés en tranches d'âge, de 10 à 12 ans, de 13 à 16 ans et de 17 à 19 ans. Donc ça c'est très très important, même si d'un pays à l'autre, les choses peuvent changer. Alors, il y a un mot un peu compliqué, mais qu'il faut expliquer. La méthode, c'est pas seulement d'enseigner les choses un peu comme ça en vrac, mais il y a cette approche spiralaire, en spirale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce concept un peu compliqué ? Quelle est la démarche que vous envisagez et aussi les contenus ?
Ça veut dire que nous avons à ce niveau des contenus communs. Nous verrons des compétences de base, nous appelons des compétences de base que l'on retrouve de l'élémentaire au lycée. En somme, de la tranche d'âge, parce que l'élémentaire, c'est cette tranche d'âge qui est concernée, 10-12 ans, à la tranche d'âge concernée par le moyen que nous connaissons, à savoir la tranche d'âge 13-16 ans, et par la suite, un peu ce qui prépare l'entrée à l'université, c'est cette tranche d'âge-là, 17-19 ans. À ce niveau, nous entrons toujours par le même point. Mais il y a une complexification progressive qui se fera d'un cycle à l'autre. Autrement dit, on retrouve les unités d'apprentissage qui sont les mêmes, mais il est évident que compte tenu de certain nombre de choses sur lesquelles ce serait peut-être superflu de nous étendre ou nous n'avons pas le temps de développer, ce que l'enfant de l'élémentaire peut apprendre, eh bien, doit être circonscrit à son développement mental, psychologique, tout ce que vous voulez. Mais au fond, les éléments de base sont déjà là. Et ça permettra de s'appuyer sur ces éléments de base pour pouvoir peut-être les aborder en les complexifiant davantage au cycle qui va venir et ainsi de suite jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. En réalité, au niveau maintenant de l'enseignement supérieur, vous savez tous, c'est les savoirs savants qui vont prendre le pouvoir. Mais avant ces savoirs savants certes vont être la référence, ce vers quoi nous tendons, mais ça doit passer par un processus, ce qui implique une transposition didactique qui se fera de l'élémentaire à l'entrée à l'université, en essayant à chaque fois de complexifier en fonction de l'évolution dans le cycle éducatif.
Alors là, le mot de spirale est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une unité, mais à mesure que l'on avance, la spirale s'élargit de plus en plus, devient...
Comme je le disais quelquefois, quand vous lancez une pierre dans l'eau, vous voyez bien qu'il y a des cercles qui s'élargissent au fur et à mesure du point initial. Il y a un élargissement progressif qui se fait. C'est à peu près aussi cette image-là qu'il faudra avoir.
Amadou Fall, nous évoquons à Khartoum, où nous nous trouvons, pour cette réunion organisée autour de l'élaboration pédagogique des manuels issus de l'histoire générale de l'Afrique. Nous évoquions cette méthode spirale dans laquelle on va retrouver les mêmes thématiques qui reviennent, mais en devenant de plus en plus complexes. Vous avez expliqué que l'objectif central, la compétence que l'on recherche, est fondée sur la vision de l'intégration africaine. Alors, essayons de prendre un ou deux exemples d'unités pédagogiques pour montrer comment vous allez l'élaborer de plus en plus dans le sens d'une complexité beaucoup plus grande.
Si vous prenez par exemple une unité, on peut prendre peut-être déjà la problématique des transformations et dynamiques internes, eh bien, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est cette compétence qui est commune à tous les cycles, c'est qu'il s'agira d'amener les élèves, les apprenants et les apprenantes à proposer des solutions aux défis d'intégration de l'Afrique, en mobilisant des arguments liés aux transformations et aux dynamiques politiques, socio-économiques et culturelles internes, mais aussi en rapport avec un certain nombre de données historiques entre le 16e et le 19e siècle. Vous voyez bien, il s'agit toujours de proposer des solutions aux défis d'intégration. Les propositions que vont peut-être données, les apprenantes ou apprenants de l'élémentaire ne seront pas aussi élaborées, aussi peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas dire compliquées, parce que ce n'est pas compliqué, mais complexes. Aussi complexes que les propositions qui pourraient être peut-être données par le cycle qui va suivre le moyen secondaire, c'est-à-dire qui prépare déjà l'entrée à l'université. Donc, c'est ça qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Il s'agit d'amener les enfants à faire face à ce défi d'intégration en convoquant l'histoire générale de l'Afrique. Je pense que ça peut être donné comme exemple, comme illustration. Si vous voulez, on peut en donner d'autres. À chaque fois, il y a une compétence de base qui est conçue en termes de proposition, parce qu'il ne s'agit pas, et d'où l'intérêt d'ailleurs de ce concept de compétence. Il ne s'agit pas simplement de réciter quelque chose, de connaître, mais ce qu'on connaît, il faut le mobiliser en vue de la résolution d'un problème identifié. Le problème, en l'occurrence ici, c'est faire face, apporter des propositions par rapport à un défi majeur actuellement qui est le défi de l'intégration du continent.
Alors, il y a une thématique également qui est importante, c'est, nous savons tous comment l'Afrique est le continent dans le monde qui a été le plus saigné par l'émigration forcée, donc l'esclavage, la mise en esclavage l'exportation, certains parlent de déportation de ces enfants, garçons et filles, vers le monde extérieur. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, peut-être un peu avant, parallèlement à cela, il y a des migrations volontaires d'Africains pour toutes sortes de raisons qui vont dans toutes les parties du monde. C'était l'une des la question des diasporas. C'est l'une des unités importantes. Comment, par exemple, vous abordez ça, donc de l'élémentaire jusque, disons, au niveau du baccalauréat?
En réalité, c'est pour permettre de répondre à cette question, il faudra peut-être préciser qu'à ce niveau, il s'agira au niveau de l'élémentaire de peut-être procéder à une approche qui partirait du régional au continental en rapport avec un peu les déplacements qu'on trouve au niveau interne. Parce que c'est ça qui est intéressant, que ça soit dans son pays déjà, on voit des mouvements. dans la région, si vous prenez dans la région, je veux dire un peu, on peut prendre l'Afrique occidentale comme l'Afrique de l'Ouest, je veux dire, comme une région, il y a aussi des dynamiques à ce niveau. Et progressivement, on élargit. Et quand on arrivera à la, par exemple, aux 12 ans, c'est-à-dire que correspond au cours moyen, c'est-à-dire 5 ans de scolarité et 6 ans de scolarité, à partir de ce moment, on peut peut-être sortir du continent pour voir un peu comment ces mouvements se traduisent au niveau international. Et c'est cela, ce qui est intéressant, c'est comment aborder cette question-là. Par rapport à l'élémentaire, on l'aborde toujours en rapport avec le contexte actuel. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la Méditerranée, il y a des possibilités de partir d'une telle réalité à l'élémentaire pour pouvoir un peu réviser tous ces éléments-là. Et quand maintenant, au niveau de l'enseignement secondaire, bien sûr, les diasporas vont être posées en rapport avec plusieurs niveaux. Il y a certaines diasporas qui sont liées à l'esclavage, des diasporas qui sont beaucoup plus anciennes. Il y a également des diasporas qui sont liées à des mouvements volontaires et des mouvements plus récents. Je pense que c'est ainsi que progressivement, il faudrait peut-être construire cet aspect. Ce n'est pas tant dans le contenu que dans un peu les exemples qui, à l'élémentaire, devront être surtout articulés par rapport au vécu de l'enfant. Il a peut-être un parent qui est en France, qui est ailleurs, qui est en Amérique. Et ça, il faudrait peut-être ne pas perdre cet aspect de vue pour pouvoir qu'il touche du doigt. Et en retour, voir aujourd'hui, et c'est ça qui me semble important, le rôle de ces différentes diasporas dans l'édification du monde moderne auquel nous aspirons d'une part, mais également pour le développement du continent. Donc il y a toujours des problématiques qui sont plus ou moins complexifié en fonction du cycle qui nous est concerné. Mais pour l'élémentaire, je pense que l'une des perspectives, ce serait de voir comment ces choses se traduisent dans son vécu quotidien aujourd'hui. Comment aussi, au niveau des relations entre sociales, on peut peut-être donner des exemples où véritablement les gens voient concrètement l'impact de cette diaspora dans la vie quotidienne par rapport à cet enfant-là. Je pense que c'est ça qui est important et bien sûr, comme je le dis toujours, en fonction de l'évolution, les choses pourraient, peut-être des exemples pourraient être donnés.
Oui, donc l'histoire telle qu'elle va être enseignée grâce à vous, grâce à ce livre qui existe déjà, l'histoire générale du continent, et grâce aux outils qui vont être mis à disposition, n'est pas seulement destinée à former des historiens, mais à former des citoyens, tout simplement, dans la perspective de la construction d'une Afrique intégrée.
Absolument. Il ne s'agit pas, parce que ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Généralement, en ce qu'on est l'élémentaire, notre objectif, ce n'est pas de former des historiens. Mais tout de même, il faudrait peut-être donner respecter une certaine méthodologie qui leur permettra, en fonction, parce que l'école élémentaire n'est plus une école de fin de cycle aussi. C'est pas une école de fin d'études. Et il y a parmi eux, certainement, et de plus en plus, l'aspiration, c'est qu'ils continuent les études. À partir de ce moment, ce qui est surtout important, c'est la méthodologie de l'historien qui pourrait lui être plus ou moins donné. Et c'est ça qui lui permettra demain de le réinvestir dans ce cadre. Mais toujours en perspective par rapport au projet qui est d'en faire quelqu'un qui puisse, face à ce défi d'intégration, se sentir comme acteur.
Merci beaucoup, Amadou Fall. Nous attendons donc que les outils pédagogiques apparaissent. On verra ça probablement dans une prochaine émission. Merci d'être venu au micro de Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.
Si vous souhaitez réécouter Mémoire d'un continent, connectez-vous sur le site rfi.fr.